Salut à toutes et à tous, c'est Lola, il est midi 15 sur le 94 FM, vous écoutez 3 en 1.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade phare.
Quant à vous aujourd'hui, notre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur ?
Il y a les villages.
Qui dit qu'on n'a pas de déboire ?
L'agriculture est en train de crever. Sincèrement, toute production confondue, toute filière.
Et la rue répond !
Résistance ! Venir de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bienvenue dans 3 en 1, votre émission d'actualité locale sur Canal B. Au sommaire aujourd'hui, Julie, tu es allée à la rencontre de Mathilde Chouquet. Elle est présidente du syndicat des jeunes médecins généralistes bretons.
Oui, c'est ça, et on a parlé un peu des crises que traverse le domaine médical en ce moment, et surtout du coup les médecins généralistes. On a parlé de comment le syndicat pouvait en fait accompagner ces jeunes-là et quelles mesures ils défendaient.
Et après, tu t'es rendue à l'inauguration du festival de danse Waterproof à Rennes.
Oui, c'est ça, je m'y suis rendue donc mercredi 28 janvier dernier. Et en fait, pour cette inauguration, la compagnie Anyan avait organisé une danse qui s'est déroulée en plusieurs ateliers où des amateurs et des danseurs en fait se sont rejoints pour préparer cette ouverture qui s'est tenue place de la mairie.
Merci Julie, on a hâte d'écouter tout ça. Mais attends, mais Manon, on serait pas le 2 février ?
Si, si.
C'est pas genre l'ouverture de mon master ?
Vous avez entendu ces pleurs ? Eh bien, ce sont des pleurs de bébés. Et pour les concernés, on vous recommande de commencer vos candidatures sur la plateforme Mon Master dès l'âge de 2 ans.
Ok, Elisabeth Borne.
Tout ça pour pouvoir intégrer le Graal, le rêve de votre vie. Le Master sémiotique de la Société de Communication, Stratégie, Alternative et Transition à Limoges.
Ça donne envie, dis donc. Hein. Mais donc c'est quoi la plateforme Mon Master ?
Tu connais la plateforme Parcoursup ? Eh bien, c'est le niveau 2, encore pire.
Comment c'est possible ?
En gros, la plateforme Mon Master, c'est une plateforme web destinée à informer les candidats quant au master proposé par l'enseignement supérieur français.
Wow !
Et au-delà des tâches administratives toutes plus ennuyeuses les unes que les autres, il faut aussi faire des CV, des lettres de motivation ou encore des projets de recherche en master.
Comment ça, des projets de recherche en master ?
Eh bien, c'est simple. Enfin, non, du coup, pas si simple. Il faut que tu aies déjà des idées de mémoire, développé avant même que tu sois accepté dans ce master, en sachant que tu peux demander 15 masters sans alternance, donc potentiellement 15 projets de recherche.
What? Bro, what are you talking about, man?
Et c'est l'une des pièces du dossier qui permet d'évaluer ta motivation.
Oh, tu m'as déjà démotivée.
Et c'est pas tout, déjà que c'était la guerre pour entrer en licence, et bien là c'est encore pire, puisqu'il y a en moyenne 20 places pour un master.
Seulement ?
Et oui, et parfois on retrouve des doubles masters avec seulement une ou deux places. Mais c'est pas ça le pire.
C'est quoi le pire ?
Le pire, c'est que même en ayant passé des heures sur cette plateforme, même en ayant un très bon dossier académique, même en ayant un super CV, même en ayant écrit des lettres de motivation et des projets de recherche en master sans aide de l'intelligence artificielle, tu peux te retrouver sans rien à la fin. Parce qu'après tout, mon master c'est aussi une grande part de chance. Et d'ailleurs, selon un article de la revue Alter Echo de novembre 2025, les étudiants diplômés d'un master ont de plus en plus de mal à trouver du travail. On parle d'ailleurs de déclassement. Selon le CEREC, le Centre d'études et de recherche sur les qualifications, en 2010, 30% des jeunes ayant des masters ou doctorats scientifiques s'étaient sentis déclassés, contre seulement 18% pour leurs homologues en 1992. En bref, on a trop de profils surdiplômés et pas assez de postes disponibles par rapport à leurs qualifications. En même temps, quand t'as bac plus 5 et qu'on te propose le SMIC, il y a de quoi péter les plombs.
Ah bah en tout cas, force et honneur à tous les étudiantes et étudiants qui nous écoutent. Merci Manon. Quant à nous, on se retrouve après une petite pause musicale. Vous venez d'écouter Migraine du groupe rennais Débi qu'on découvre sur Canal B. Vous êtes toujours sur 3 en 1 et c'est à Julie de prendre le micro pour l'interview du jour. Elle est en compagnie de Mathilde Chouquet du syndicat Urbraise, des jeunes médecins généralistes de Bretagne.
En ce début d'année, le domaine de la santé publique n'a pas manqué d'être secoué. Le 5 janvier dernier, les médecins libéraux appellent à la grève qui se terminera le 15, 10 jours plus tard, alors que le gouvernement promet des mesures pour, je cite, « écouter les médecins ». Bon, pas de bol pour vous si vous avez chopé un rhume cette semaine-là, mais il faut le comprendre, le personnel médical ne se mobilise que rarement. Et lorsqu'il appelle à la grève, c'est que le système entier nous couvre un petit quelque chose. Aujourd'hui dans 3 en 1, Mathilde Chouquet, présidente du syndicat des jeunes médecins généralistes bretons, est venue nous éclairer sur les conditions de travail et les revendications des médecins en France. Mathilde, bonjour.
Bonjour.
Donc là, si ce sont les médecins qui se sont mobilisés en début d'année, on sait aussi qu'il y a un peu plus d'une semaine, il y a eu une mobilisation du personnel médical du CHU de Rennes. Est-ce que il y a une similarité dans la crise traversée par ces deux branches de la santé ?
Alors, je dirais oui et non, dans la mesure où les motifs de la grève n'étaient pas tout à fait les mêmes, mais en fait, ça reste les soins primaires, donc les médecins qui sont plutôt installés en ville et campagne, hors des hôpitaux et les hôpitaux. C'est vraiment les deux branches essentielles du système de santé. Et donc, on a besoin que les deux fonctionnent bien pour que ça tourne et que les patients puissent être bien accompagnés et bien pris en charge. Et je dirais que les motifs de grève ne sont pas les mêmes, mais le problème de fond, c'est à peu près le même. C'est que depuis plusieurs années, on voit que la santé est globalement de moins en moins financée. Il y a une tendance à couper dans les dépenses sans réfléchir aux besoins des personnes sur le terrain. Et donc, la grève des médecins en début d'année, c'était plutôt par rapport à la loi de finances de la sécurité sociale, dans laquelle il y avait des mesures qui n'étaient pas acceptables pour l'organisation de la profession. Et puis, un projet de loi plus qui était ciblé sur la fraude et où il y avait des questions notamment autour des prescripteurs d'arrêt de travail. Et en gros, c'était ça vraiment les deux éléments, ou en tout cas pour les médecins, c'était difficile d'être déjà mis dans un projet de loi sur la fraude et surtout de dire que la problématique des arrêts de travail, encore une fois, elle est regardée juste du petit côté de la lorgnette en disant c'est parce que les médecins prescrivent trop qu'il y a des problèmes d'arrêt de travail, et sans regarder dans la globalité le problème des conditions de travail qui se dégradent, de la santé mentale et physique des gens qui se dégradent également. Donc voilà, disons que c'est deux motifs de colère, mais en fait, qui témoignent de la souffrance des soignants au quotidien dans leur travail pour soigner les gens, quoi.
Et justement, il y a un terme en fait qui revient beaucoup, c'est le thème de déserts médicaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire et est-ce que c'est pertinent d'en parler en Ille-et-Vilaine ?
Alors, désert médical, c'est un peu un terme assez médiatique qui recouvre une réalité un peu hétérogène. En gros, c'est les agences régionales de santé qui font ce qu'on appelle des zonages. C'est en gros, avec certains indicateurs, on détermine en fait, en fonction du nombre de médecins, du nombre de consultations qui sont ouvertes, du nombre de personnes qui habitent dans ce bassin de population, on détermine un indicateur. Et bon, en gros, c'est le nombre de consultations par habitant et par an qui sont accessibles dans ce bassin de population. En dessous d'un certain seuil, donc c'est 2,5, on considère qu'on est dans une zone qui est sous-dotée en médecins. Donc ça peut être des zones rurales, souvent c'est un peu l'image qu'on a en tête, mais ça peut aussi être des zones urbaines qui sont très peuplées et parfois où il y a beaucoup de précarité, des choses comme ça, avec des patients qui vont avoir des pathologies plus graves, des choses comme ça, et du coup un médecin qui serait installé là-bas aura besoin de dédier plus de temps aux patients, d'avoir peut-être de l'accompagnement par des assistantes sociales, des choses comme ça pour son travail. Et parfois, c'est des zones qui sont peut-être un petit peu moins bien desservies en transport, des choses comme ça, et du coup qui vont être moins attractives en quelque sorte. Mais en fait, ce qui est intéressant de regarder, c'est que même dans les zones qui ne rentrent pas dans ces critères, qui ne sont pas considérées sous-dotées, y a aussi des difficultés d'accès aux soins. Tout Rennes et la petite couronne, la couronne autour de Rennes, c'est pas considéré comme sous-doté. Et pourtant, je crois qu'à Rennes, on estime qu'il y a à peu près 10% des personnes qui n'ont pas de médecin traitant. Moi, je me suis installée il y a un an en centre-ville de Rennes. Et en fait, j'ai beaucoup de demandes de patients qui cherchent des médecins traitants. En fait, et là, je commence à être un peu à réduire un peu les patients que je prends parce que je vois que mes délais de consultation commencent à s'allonger. Et encore une fois, j'ai la chance d'être en centre-ville de Rennes. J'ai un accès quand même assez facile aux autres spécialistes, à l'hôpital, tout ça. Mais en fait, la pression de soins, on la ressent aussi. Et donc, il faut imaginer que dans les zones qui sont vraiment, qui sont sous-dotées, selon les chiffres, bien sûr, c'est encore pire. Mais qu'en fait, c'est idéal à peu près nulle part, quoi.
Et est-ce qu'il y a quelque chose qui explique ce phénomène de désert, quoi ?
Eh bien oui, en fait, tout simplement, c'est qu'on n'est pas assez de médecins. Dans les années 70, il y a eu la décision d'instaurer ce qu'on appelle un numerus clausus. Donc en gros, c'est de dire qu'il n'y a qu'un certain nombre d'étudiants qui peuvent être admis en études de médecine. C'était une époque où, bon, a priori, il y avait un peu plus de médecins et... Bon, c'était un peu des décisions de « il y a trop de dépenses de santé, donc on n'a qu'à avoir moins de prescripteurs et comme ça, il y aura moins de dépenses ». Et en fait, ça a fonctionné un temps, mais ils n'ont pas pris en compte que l'état de santé de la population allait quand même être un peu plus complexe parce que les gens vivent plus âgés. Donc statistiquement, ont plus de problèmes de santé. Et puis il y a plein d'autres problématiques qui font que la santé des gens a tendance quand même à se dégrader. Et du coup, bah, il y a plus de besoins de soins pour les personnes. Et donc, du coup, il y avait moins de médecins. Et là, on arrive un petit peu au creux où on a des médecins qui partent en retraite et pas suffisamment de médecins qui arrivent pour les remplacer. Donc il y a le numerus clausus, là, il a été progressivement augmenté. Il y a quelques années, ils ont mis en place ce qui s'appelle le numerus apertus. Donc c'est... Il y a un peu plus d'augmentation d'étudiants formés. Mais en fait, un étudiant en médecine, ça met à peu près 10 ans à être formé. Donc le temps qu'ils sortent des études, ça prend du temps pour remettre un peu les choses à l'équilibre. Et en attendant, bah, les gens, ils ont besoin de trouver des personnes pour les soigner.
Oui, et puis il y a aussi les conditions d'études en médecine qui posent problème. D'après l'intersyndicale nationale des internes, un étudiant sur deux aurait des troubles anxieux et environ un étudiant sur cinq aurait des pensées suicidaires. Est-ce que c'est donc cette pression sur les étudiants qui peut jouer un rôle aussi dans l'entretien de ces déserts médicaux ?
Ben en fait, quand on décide d'augmenter le nombre d'étudiants formés, il faut que ça aille avec augmenter les capacités de formation dans les universités. On ne peut pas dire ben on a qu'à former 800 médecins par an dans la faculté de Rennes si on n'a pas suffisamment d'enseignants pour les former, de stages pour les accueillir dans des bonnes conditions, parce que malheureusement, des fois, il y a des stages où bah, les internes font des horaires au-delà de leurs limites légales. Ben, ça reste bien sûr des études où on est confronté à des choses difficiles. On voit des gens qui sont malades, des gens qui meurent, de la souffrance. Et puis le fait que l'hôpital public, enfin les hôpitaux en général, et les soins primaires soient en grande difficulté, bah, ça confronte aussi à l'impression de... Parfois, ça nous confronte à un peu notre impuissance. On voudrait aider les personnes. Et puis, en fait, on voit bien qu'on est une petite goutte d'eau, on ne fait pas grand-chose. Et donc, je pense que tout ça, ça joue sur la santé mentale. Après, vous regardez les études santé mentale des syndicats d'internes, comme l'ISNAR-IMG, par exemple, où ils font régulièrement des travaux là-dessus pour alerter, oui, sur la santé mentale des internes qui est très dégradée. I'm standing here by your workplace, hoping that you're there. Wearing the things you said on my face like they're a prayer. You left me on a tightrope between God and your father, and there's not enough air. I know that you can hold me, but just hold me in some way, like you want me, like you lost me. All the ways you need me are from God.
And all the ways you return my flood. I know our families would never find their way through the same living room. All of these bloodlines, all of these costumes. I know that you can't hold me, but just hold me like you want me, like you got me.
C'était Iman de Mustapha dans 3 en 1. Vous êtes toujours sur Canal B, on retrouve Julie pour cette deuxième partie d'interview. Elle est avec Mathilde Chouquet qui représente le syndicat Urbraise, syndicat des jeunes médecins généralistes de Bretagne, pour parler de la crise du milieu médical à Rennes.
Il y a aussi une statistique que l'on peut voir apparaître lorsqu'on parle de déserts médicaux. C'est celle de la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, la DRES, et qui indique des chiffres assez surprenants. En fait, elle dit que 98% de la population vit à moins de 10 minutes d'un ou d'une médecin généraliste et que 96% du territoire est aujourd'hui couvert par la permanence des soins ambulatoires. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, en fait ?
C'est assez logique parce que, en fait, les médecins généralistes, c'est une profession qui est assez bien répartie, finalement. Quand on regarde les chiffres de l'assurance maladie, c'est la profession de santé qui est la mieux répartie sur le territoire. Le problème, en fait, c'est que c'est pas le tout de pas habiter pas très loin d'un médecin généraliste. En fait, encore faut-il qu'il ait de la place pour prendre encore des patients. Et c'est souvent ça, là, que le bas blesse. Et par exemple, le Premier ministre a proposé l'idée des maisons France Santé dans l'idée que presque 100% du territoire soit à moins de 30 minutes d'un professionnel de santé. Et en fait, très bien de dire ça, mais déjà, en fait, c'est un peu le cas. Et le problème, c'est que, encore une fois, il n'y a que 24 heures dans une journée, et du coup, on ne peut pas accueillir à l'infini les patients, quoi.
Mais du coup, quelles mesures peuvent être prises pour prendre en charge ces patients ?
Je pense que le travail, il est à faire sur comment faire pour qu'ils soient mieux répartis. Et souvent, dans ces situations-là, les politiques amènent l'idée de la régulation à l'installation, en disant, il suffit que les gens ne s'installent pas dans les territoires qui sont bien dotés. Ils seront obligés d'aller dans les territoires qui sont considérés sous-dotés et ça règle le problème. Mais en fait, c'est pas si simple. Déjà parce que, comme on disait tout à l'heure, les territoires qui sont pas considérés sous-dotés, ils sont quand même en difficulté pour répondre aux besoins de soins de la population. Et donc, en fait, si on empêche des médecins de s'installer dans ces zones-là, dans quelques années, ce sera des zones où il y aura pas assez de médecins selon les chiffres, selon les cartes, alors que même déjà, là, c'est compliqué. Donc, en fait, nous, ce qu'on propose, c'est plutôt que favoriser déjà un recrutement plus varié des étudiants. Si on arrive à diversifier les profils des étudiants qui rentrent en médecine, rendre les études attractives, et même en créant peut-être des antennes universitaires qui seraient délocalisées, et comme ça, ça ferait, ça permettrait à des personnes d'horizons plus variés de faire médecine dans des bonnes conditions. Et la deuxième chose, c'est pendant les études, il faut faire des stages dans des zones variées. Il ne faut pas faire des stages qu'en ville. Donc, il faut inciter les médecins qui travaillent dans les zones qui sont plus sous-dotées, peut-être moins attractives, tout ça, à prendre des étudiants en stage. Parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a plein de personnes qui s'installent dans des cabinets où ils ont fait leur stage pendant l'internat, par exemple. Mais en fait, si on travaille avec les professionnels, que ça se passe bien, qu'on commence à connaître un peu le réseau autour, ça peut tout à fait donner envie de s'installer dans ces zones-là. Et la troisième chose, c'est au moment de la fin des études, il faut accompagner les nouveaux diplômés vers l'installation. Et en fait, pour ça, il faut, je dirais, un peu mettre le paquet. Parce qu'en fait, l'installation, c'est un peu une grande démarche quand même. Il y a pas mal de démarches, ça peut faire un peu peur. Et parfois, on ne va pas forcément connaître où est-ce qu'on pourrait s'installer, tout ça. Et ça, c'est intéressant parce que dans les propositions que la ministre a fait suite à l'arrêt de la grève, elle a relancé le travail sur ce qu'on appelle les guichets uniques d'accompagnement à l'installation, qui ont été votés en 2023 dans la loi de finances de la sécurité sociale et qui, à ce jour, ne sont pas mis en place, en fait. Et nous, c'est un travail qui nous tient beaucoup à cœur parce que on est persuadé que c'est vraiment un levier super important pour inciter les jeunes diplômés à s'installer de façon beaucoup plus homogène dans d'autres zones et à créer, les aider à créer des cabinets s'ils sont motivés, tout ça. Et il y a plusieurs initiatives en France qui existaient déjà avant le vote de la loi, je pense notamment dans les Vosges, dans les Pyrénées-Atlantiques, tout ça, avec des organismes qui sont financés en général par les départements, les ARS. Et en fait, où il va y avoir plusieurs personnes dont le métier, c'est de repérer un peu dans le territoire les endroits où il y a des possibilités d'installation, de rencontrer tous les internes qui viennent de terminer pour venir à leur rencontre, leur demander un peu ce que c'est leur projet professionnel, les aider à construire leur projet professionnel. Et après, du coup, créer un peu des matchs entre des cabinets où ils ont besoin d'avoir des jeunes médecins qui viennent renforcer leurs équipes, éventuellement mettre en contact des jeunes médecins qui voudraient créer un cabinet à un endroit. Et en fait, ça marche bien. Et donc, en fait, voilà, moi, je crois beaucoup au fait que... Alors, c'est sûr, ça implique de mettre un peu... de financer ça correctement. Hein. Je pense qu'il faut absolument éviter d'aller vers des guichets uniques qui seraient juste un genre de plateforme en ligne où on dirait, c'est ça, les démarches à faire, voilà, au revoir. Il faut vraiment avoir des personnes et plusieurs personnes, parce qu'il y a aussi des endroits où ils ont une seule chargée de mission et c'est beaucoup trop de travail pour une seule personne. Mais il faut vraiment des personnes qui font un genre de diagnostic de territoire pour donner, aider en fait les jeunes médecins à trouver en fait où est-ce qu'ils veulent s'installer et créer des dynamiques locales, quoi. Ça, je pense que vraiment ça peut fonctionner.
Est-ce que vous, du coup, en tant que président du syndicat Urbraise, vous attendez vous avez des revendications et des attentes spécifiques pour les jeunes médecins?
Là, notre revendication principale, comme là, du coup, ça a été proposé par la ministre, c'est effectivement que la mise en œuvre des guichets uniques soit effective et qu'elle se mette vraiment en place. Et surtout, on a fait un genre de cahier des charges qu'on souhaiterait qu'il puisse être utilisé pour valider, en fait, les organismes qui souhaiteraient éventuellement candidater pour être les nouveaux guichets uniques. L'idée, c'est pas de repartir de zéro partout. Il faut partir de ce qui existe déjà. Et ce qui existe et qui fonctionne, bien sûr, il faut le sanctuariser et il faut travailler avec. Donc ça, nous, c'est, comme on est beaucoup centré sur les débuts d'exercice, c'est un point qui va être très important pour nous. Et après, la question autour des arrêts de travail, c'est aussi quelque chose qui nous occupe beaucoup. Donc on va être très vigilant là-dessus, parce que ça, c'est en termes de projet de société, on va dire, les questions autour des arrêts de travail, c'est un bon exemple. Qu'on voit toujours la dépense d'indemnité journalière par le côté, ça coûte trop cher, il suffit que les médecins prescrivent moins. Et en fait, ça montre, les déterminants de la santé, en fait, on se dit toujours, il suffit d'avoir l'accès aux soins et ça règle tout. Mais en fait, non, la santé des gens, les principaux déterminants, ça va être est-ce qu'ils ont un logement décent, est-ce qu'ils ont accès à l'éducation, est-ce qu'ils ont des prestations sociales qui leur permettent de vivre si jamais ils rencontrent une difficulté, et est-ce qu'ils sont dans des bonnes conditions de travail, etc. L'accès aux soins, je crois que c'est entre 15 et 25% de ce qui détermine la santé des gens. Donc en fait, il faut être réaliste sur le fait que c'est pas que entre les mains des médecins. Alors bien sûr, l'accès aux soins, c'est clair que dans des zones où il y a moins d'accès aux soins, il y a probablement une espérance de vie malheureusement qui est moins importante. Il faut être lucide là-dessus. Mais en fait, la question des arrêts de travail, je trouve que c'est un bon exemple. Parce que si on s'attaque pas aux conditions de travail dégradées, aux troubles mentaux qui explosent, l'accompagnement à la réinsertion professionnelle qui est pas suffisamment bien mis en œuvre, et qu'on se contente de dire au médecin « vous prescrivez trop et on va vous sanctionner si vous prescrivez trop », on passe complètement à côté du problème, quoi.
Merci en tout cas, c'était super intéressant. Merci beaucoup Mathilde Chouquet d'avoir été avec nous dans 3 en 1. Donc, je le rappelle, vous êtes présidente d'Urbraise, le syndicat des jeunes médecins généralistes bretons. Merci d'avoir été avec nous.
Avec plaisir, merci à vous pour l'invitation.
Julie est partie en reportage la semaine dernière pour suivre la construction du spectacle « Ces gens qui restent » organisé par la compagnie Anian. Ce projet a ouvert le festival de danse Waterproof à Rennes mercredi dernier. Elle a fait la rencontre de Lise, la chorégraphe, et de Matisse, étudiant et danseur d'un soir. Elle a pu suivre leur évolution de la première répétition jusqu'au dernier souffle des danseurs avant la représentation finale. Inspirer et expirer, maintenant il faut danser. C'est sous une pluie fine que professionnels, amateurs et simples curieux se sont réunis pour investir la place de la mairie le temps d'une danse.
Je vous invite à nous joindre, comme ça on va commencer dès qu'on peut.
Alors, je suis Lise Duzuel, chorégraphe de la compagnie Anian que j'ai cofondée avec Steven Fricono. On aime travailler avec les différents publics, créer du lien. L'idée c'est un peu montée comme ça, que de nous proposer de créer quelque chose pour l'inauguration du festival, et ça fait vraiment écho à l'ADN de la compagnie d'investir un espace public, mais de l'investir en mélangeant une compagnie professionnelle avec des amateurs danseurs ou non danseurs, et en intégrant d'une manière particulière aussi le public à cette performance. Donc ça rassemblait tous ces points là. Les mots d'ordre, on va dire, c'est plaisir, invitation à danser, partage, créer du lien. Donc sentez-vous à l'aise dans tout ce qu'on va faire, de sourire, de dialoguer avec les regards. Enfin voilà, c'est vraiment cette idée-là qu'on a envie de défendre pour ce projet. Et donc déjà, merci d'avoir voulu prendre part à l'aventure.
Moi c'est Mathis, je suis étudiant, j'ai envie qu'on passe un bon moment tous ensemble. En fait je trouve ça vraiment marrant et j'ai envie d'apprendre un peu comment ça se passe, faire une représentation comme ça avec tant de personnes qui se connaissent pas au début, comment on va apprendre à communiquer ensemble et tout. Je trouve ça super chouette.
Qu'on soit danseur, non danseur, qu'on soit habitué à aller voir des spectacles ou non, qu'on soit juste curieux, mais avec cette envie commune de partager quelque chose, on pouvait s'inscrire pour cet atelier-là. Donc ce soir, on attend une grosse centaine de personnes pour mettre en place du coup la performance qui aura lieu mercredi.
On a vécu vraiment un beau moment. Les chorégraphes, les danseurs nous ont dit d'aller voir le public, d'aller les inciter à venir danser avec nous. Et sur le moment, j'ai un peu hésité à le faire. Au final, j'ai tendu mes mains et j'ai regardé pour voir s'il y en a qui étaient chauds. Et ouais, il y en a qui étaient chauds pour danser. Et c'est ça, c'est qu'on choisit pas, quoi. On connecte avec les gens avec qui il y a une énergie commune. Et on fait ça à travers la danse, et c'est trop cool. Bah franchement, objectif rempli. Donc c'est carré.
Si vous venez de nous rejoindre dans 3 en 1, vous écoutiez un reportage de Julie au festival de danse à Rennes Waterproof et le spectacle participatif Ces gens qui restent, chorégraphié par la troupe Anian. Merci à Mathilde Chouquet d'être venue sur le plateau de 3 en 1 et au festival Waterproof d'avoir accueilli Julie à leur répétition. 3 en 1, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve mercredi à 12h15 pour une nouvelle émission ou dès demain en rediffusion de 8h15 à 8h45. Bon après-midi.